Cette année, GMF était le numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 3 mois offerts pour toute souscription de contrat habitation jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Les habitantes de Pauline Peyrade. Émilie habite ici et elle veut y rester à toute force. Sa maison, la nature, les animaux, les arbres, elle fait partie de cet endroit.
Habiter s'oppose à posséder, spéculer, envisager un lieu de relations physiques, affectives, toute la vie qui le constitue, le lieu est vivant.
Les jurés du Livre Inter se sont passionnés pour ce livre qui, dans une belle langue, nous parle d'habiter le monde. Les habitantes de Pauline Peyrade, Livre Inter 2026.
Samedi 6 juin, il est 8h. Le journal, Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, question sur un fiasco. Après l'enlèvement et le meurtre de Liana, 11 ans dans le Gers, Gérald Darmanin a présenté ses excuses au nom de la justice. Pour le ministre, l'institution a failli en négligeant les plaintes précédentes contre le suspect. Des drames qui révèlent des dysfonctionnements dans la chaîne judiciaire. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et on en parle avec vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Oui, y a-t-il des dysfonctionnements donc dans ce traitement des violences faites aux mineurs et où se trouvent-ils ? Réponse dans le grand entretien. Deux anciens membres de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, sont avec nous. L'avocate Karine Durieux-Diebolt et le président de l'association Move Enfants, Arnaud Gallet.
Question, réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France.
Dans l'actualité aussi, les Européens affichent leur soutien à l'Ukraine. Mini sommet demain à Londres autour de Volodymyr Zelensky. Comment enseigner la mémoire de la Seconde Guerre mondiale 82 ans après le débarquement allié en Normandie? Pour les insomniaques et les curieux, c'est la nuit blanche ce soir à Paris et ailleurs sur le thème de l'amour. Et puis ça se complique pour Victor Wembanyama et les Spurs en finale NBA, c'est du basket et on en parle dans le journal des sports d'Hugo Marceau.
France Inter.
Entre deuil et colère, le choc est double au lendemain de l'identification du corps de Liana. La collégienne de 11 ans a été retrouvée morte dans un silo à grains désaffecté, une semaine après sa disparition dans le Gers. Demain après-midi à Fleurance, une marche blanche rendra hommage à Liana. Mais au-delà du drame, c'est tout le fonctionnement de la chaîne pénale qui est en cause. Le suspect du meurtre avait fait l'objet de 3 plaintes pour viol. L'enquête sur la dernière plainte déposée l'an dernier pour viol sur une enfant de 10 ans était enlisée depuis plusieurs mois. Alors au nom de la justice, Gérald Darmanin a présenté ses excuses hier soir sur TF1. Le garde des Sceaux parle d'un immense échec.
Nous avons failli dans l'organisation concrète de suivi de plaintes nombreuses et notamment la dernière, celle qui a été déposée en août 2025. De ce que j'en sais, il y a des plaintes. De ce que j'en sais, il y a des constats médicaux. De ce que j'en sais, il y a un psychologue qui a confirmé que cette petite fille, manifestement, n'affabulait pas. Et il y a le nom d'une personne qui est connue dans les fichiers qu'on appelle Cassiopée Étage. Il n'a certes pas été condamné par la justice, mais tout à chacun, puisque notre service informatique fonctionne, voit que cette personne a déjà eu des plaintes pour des viols ou des attouchements sexuels sur des mineurs.
Une enquête administrative sur ces dysfonctionnements rendra ses premières conclusions dans 15 jours. Et le cas échéant, Gérald Darmanin en tirera toutes les conséquences en proposant des sanctions, dit-il, pour des défaillances, des fautes professionnelles. Négligence, absence de coordination, manque de moyens, toutes les pistes sont avancées pour expliquer ce raté. Et ce n'est pas la première fois qu'un drame révèle ce genre de dysfonctionnement. C'est arrivé dans l'affaire Pellicot et dans plusieurs cas de féminicide. On revient avec vous sur ces précédents, Sarah Guibaudot.
Au procès des viols de Mazan en 2024, on apprend que l'ADN de Dominique Pellicot avait matché avec celui retrouvé sur une scène de crime en 2010. Le rapport de police scientifique a bien été envoyé par la poste, relève l'inspection, mais il semble s'être perdu au parquet de Meaux. Plusieurs drames ont questionné le suivi de personnes condamnées ou mises en cause. Ce fut le cas pour les deux adolescents accusés d'avoir tué le jeune Elias à Paris l'an dernier. Les derniers juges des enfants les avoir vus n'étaient pas informées de leurs antécédents. Nombre de féminicides ont mis en lumière une mauvaise évaluation du risque que fait peser le compagnon ou l'ex. Le rapport sur la mort d'Inès Messelem à Poitiers en septembre dernier éclairait ces défaillances. La jeune femme avait porté plainte et alerté à de nombreuses reprises. La charge de travail des enquêteurs et des magistrats ou le manque de formation entre en compte. L'organisation aussi. Le rapport soulignait l'importance d'une meilleure circulation de l'information et du développement d'une culture commune du risque.
Et du côté des magistrats, les représentants des procureurs rappellent qu'ils alertent depuis plusieurs années sur les stocks de dossiers en attente dans les services de police et de gendarmerie avec des délais de traitement alarmants malgré l'engagement des enquêteurs.
8h05 à l'étranger, quelle place pour la diplomatie dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?
Vladimir Poutine ne veut pas rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky en tête à tête. Il a refusé hier la proposition du président ukrainien. Sur le terrain, la situation est toujours aussi tendue, avec des frappes de part et d'autre. Cette nuit, l'armée russe a intercepté 86 drones ukrainiens autour de Saint-Pétersbourg, où se tient un important forum économique surnommé le Davos russe. Et les Européens, eux, ils tentent toujours de trouver une issue diplomatique. Les représentants de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne rencontreront Volodymyr Zelensky demain à Londres. Une façon de mettre la pression sur la Russie, comme l'a répété hier Emmanuel Macron depuis le Monténégro, où il assistait à un sommet entre l'Union européenne et les pays des Balkans. Jérôme Val.
Une rencontre pour, explique l'Élysée, montrer l'unité et la détermination des Européens dans un moment où l'Ukraine démontre sa capacité à mettre la Russie en échec. La coalition des volontaires sera aussi réunie à Paris lors du 14 juillet. Message limpide, le moment est venu de faire la paix et aux yeux d'Emmanuel Macron, ce sera avec les Européens.
Ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix. Ce sont les Européens qui peuvent y aider et ce sont les Européens qui doivent à un moment donné autour de la table des discussions pour un plan de paix parce qu'il s'agit d'une architecture de paix et de sécurité pour les Européens compte tenu de la géographie.
Un impératif, d'autant que sur le terrain, la situation s'enlise pour la Russie qui s'obstine dans une guerre meurtrière, assure l'Élysée. Pour le président français, l'offre américaine de laisser les territoires conquis à la Russie n'est plus la solution.
Je crois pouvoir dire que l'offre qui avait un moment pu exister, qui n'était faite ni par les Européens ni par l'Ukraine, mais qui consistait à dire il faut laisser à la Russie l'intégralité du Donetsk, en tout cas tout le Donbass, c'est une offre qui n'a jamais existé pour les Ukrainiens ni pour les Européens, mais c'est une offre aujourd'hui qui ne doit plus exister.
Voilà de quoi alimenter les débats entre Européens et Américains lors du prochain G7 en France dans 10 jours.
Jérôme Val. Au Moyen-Orient aussi, les frappes continuent. La nuit dernière, l'Iran a tiré 7 missiles contre le Koweït et Bahreïn, ces pays du Golfe alliés des États-Unis, en réponse, dit l'Iran, à des bombardements américains sur des installations de radars. Au Liban, d'après le ministère de la Santé, une frappe israélienne a fait 5 morts hier, dont un secouriste dans la région de Nabatieh, fief du Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien. 82 ans après le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, comment continuer à entretenir la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ? Les survivants de cette époque se font de plus en plus rares. Les témoins directs sont pour beaucoup centenaires. Alors pour les entendre jusqu'au bout, la fondation de l'ancien camp de déportation des 1000 à Aix-en-Provence a fait se rencontrer des collégiens et une trentaine d'anciens enfants juifs cachés pour échapper aux nazis. C'est un reportage de Mathilde Vinceneuve.
Ils sont une centaine de collégiens à écouter les récits de ces anciens enfants juifs cachés. Charles Lastman, 90 ans, a la gorge nouée quand il parle de son père déporté. Il se souvient de l'annonce de sa mère.
Elle est arrivée, elle m'a dit, tu sais Charles, ils ont arrêté papa.
Charles Lastman a été caché chez un couple de paysans, Pépé et Mémé, dit-il. Son témoignage fige les collégiens. Une élève prend le micro.
Comment, en tant qu'enfant, vous viviez la guerre ?
Par une trouille immense. On lui disait, quand tu vas faire pipi, comme les Juifs, on est circoncis, tout le monde le sait. Fais attention que personne regarde tout ça.
À la fin de la rencontre, Emma, 14 ans, est encore émue.
Ça m'a touchée. C'est toujours mieux d'entendre le récit de quelqu'un qui l'a vraiment vécu, parce qu'on ressent plus ses émotions qu'un professeur d'histoire qui récite entre guillemets juste ce qui est écrit dans le bouquin, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Mais malheureusement, le racisme et l'antisémitisme continuent encore aujourd'hui.
Et c'est bien pour ça qu'il y a urgence à raconter encore et encore. Alain Choura, qui préside de la fondation du camp des Mille.
Il y a l'urgence de l'âge de ces survivants. Ils ont un minimum de 85-90 ans plutôt. Et il y a une urgence démocratique.
Car quand une démocratie vacille, dit-il, cela ouvre la porte aux pires persécutions.
La cérémonie de commémoration du débarquement, c'est cet après-midi à Ouistreham, puis à Langrune-sur-Mer, en présence du ministre de la Défense américain, Pete Hegseth. Bouygues Télécom, Iliad Free et Orange se donnent jusqu'à dimanche pour finaliser un accord de rachat de SFR. Les trois opérateurs sont engagés ensemble dans ce rachat. Le délai devait expirer hier soir. Il est donc prolongé, une offre de plus de 20 milliards d'euros est sur la table. C'est une première chez Decathlon. Tous les syndicats appellent à une mobilisation nationale aujourd'hui dans les 324 magasins de la marque. Ils réclament une revalorisation des salaires alors que la santé du groupe est très bonne. 1400 personnes ont signé la pétition pour dénoncer une entreprise qui surperforme sur le dos de ses salariés. Et un acquis social qui remonte à 90 ans. Les congés payés. En juin 1936, le Front populaire instaurait 2 semaines de vacances sans perte de salaire. Des congés réservés jusqu'alors à certains métiers, dont les fonctionnaires. Alors on se souvient des trains bondés pour aller sur les plages à l'été 36. 9 décennies plus tard, ces congés ne sont pas toujours synonymes de changement d'air, car 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances, Luc Chemla.
Et c'est même 1 enfant sur 3. Les congés sont d'une certaine façon devenus un symbole des inégalités sociales et économiques. Les facteurs sont multiples, explique le géographe Rémi Knafou, spécialiste du tourisme.
Il y a la hausse du coût des vacances qui est en partie imputable au développement de l'internationalisation du tourisme en France, au recours à une clientèle étrangère lointaine qui est rémunératrice mais qui concourt à tirer vers le haut tous les prix. C'est le résultat aussi de la précarisation montante du marché du travail. On a vu se multiplier ces dernières années des auto-entrepreneurs, des intérimaires.
Créé à la fin des années 50 pour permettre notamment aux plus modestes de partir, Village Vacances Famille propose des séjours à prix bas et aide tous les ans financièrement 60 000 personnes. Martine Pinville, sa présidente, lance un appel.
À nous de remettre en place des politiques pour permettre aux familles de partir. Il faut travailler avec des associations qui sont plutôt implantées dans les milieux urbains, même en milieu plus rural, qui repèrent ces personnes et qui peuvent les aider et permettre ce départ en vacances.
Des congés payés qu'il convient de défendre pour le bien-être des familles, ajoute la présidente, préoccupée par une proposition de loi LR. Le texte veut permettre de transformer une partie des vacances non utilisées en rémunération supplémentaire.
Et les vacances, on en reparle dans l'émission On n'arrête pas l'écho. Après le journal de 9h, le PDG France du Club Med, Stéphane Macaire, sera l'invité de Claire Chaudière.
Nuit blanche ce soir pour les insomniaques et les curieux.
25e édition parisienne cette année de cet événement d'art contemporain. C'est ce soir, enfin cette nuit, dans plusieurs villes de France également, avec des installations, des spectacles, des expositions à découvrir gratuitement et sous le signe de l'amour, Julien Baldacchino.
Pour préparer cette nuit blanche, la DJ Barbara Butch, directrice artistique de l'événement, a demandé aux Parisiens et Parisiennes de faire des déclarations d'amour face caméra qui seront diffusées sur des écrans mobiles partout dans Paris.
C'est pas si facile que ça de le dire, de l'entendre non plus, de le faire entendre encore moins. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie qu'on se dise plus facilement, on s'aime. Ce qui est chouette avec toutes ces personnes qui ont été filmées, dire qu'on sait pas qui ils sont, pour qui ils votent. Qu'ils font dans la vie. On n'en a rien à faire en fait. Parce que l'important, c'est que au bout du compte, on peut s'aimer.
Après quelques éditions qui se cherchaient, la nouvelle équipe municipale veut revenir à une fête populaire avec une scène consacrée à la musique devant l'hôtel de ville et des propositions artistiques partout. Florian Sidbon est adjoint à la culture à la mairie de Paris.
C'est vraiment faire rentrer l'art contemporain et l'art tout court partout, dans Paris, dans le cœur des Parisiens. Et à chaque fois, c'est énormément de surprises. Nous, on se bat pour que toutes et tous puissent avoir du plaisir avec les styles d'art et les arts qu'ils préfèrent. Pas pour cloisonner, pas pour choisir à la place des autres.
Ailleurs, d'autres propositions font vivre cette nuit blanche. Au Havre, 8 artistes s'emparent de l'ancien fort militaire de Tourneville et à Aubervilliers, les artistes du tiers-lieu Push consacrent leur soirée à une variation autour d'une chanson des Beatles.
Julien Baldacchino, un petit regret pour cette édition, il va falloir patienter pour traverser la caverne du Pont Neuf conçue par l'artiste JR. Elle a été endommagée par quelques rafales de vent.
Il est 8h13 sur France Inter, le journal des sports.
avec Hugo Marceau ce matin. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Direction les États-Unis, on le disait, pour parler basket, ça se complique sérieusement pour Victor Wembanyama et les Spurs en finale NBA.
San Antonio et son intérieur français qui ont pourtant eu le ballon de la gagne cette nuit face à New York.
Fox to Wembanyama, pulls up, jumper.
Deuxième défaite à domicile en deux matchs pour les Texans, 104 à 105. New York fait sa loi pour l'instant. Quand on sait que les deux prochains matchs seront dans la bouillante salle de la Grosse Pomme, le Madison Square Garden, et qu'il faut 4 victoires pour être sacré, s'annonce un sacré défi désormais pour Wemby.
Et le grand rendez-vous sport de la journée, Hugo, c'est du tennis avec la finale dames à Roland-Garros.
Finale surprise, porte d'Auteuil. D'un côté, la sensation polonaise Maya Szwalińska, issue des qualifications. De l'autre, la russe Mira Andreeva, numéro 8 mondiale, 19 ans seulement. Elle aussi novice à ce niveau, mais favorite selon Justine Hénin, consultante tennis pour France Télévisions et quadruple vainqueur du tournoi.
Grande favorite de cette finale. Et ça, pour une première finale de Grand Chelem, arriver à être grandissime favorite dans un contexte quand même un peu particulier, il faudra le gérer, mais elle aura la fraîcheur qu'aura moins son adversaire, évidemment, et une forme d'expérience qu'aura moins son adversaire, même si c'est une première finale pour les deux.
Premier service aux alentours de 15h. Enfin, du suspense en rugby. 4 équipes de top 14 se disputent aujourd'hui 2 places pour la phase finale lors de la dernière journée, à commencer par Bordeaux-Bègles, le champion d'Europe, 6e, mais pas encore qualifié, avant de recevoir Clermont, Thomas Vinclair.
Ils ont encore leur destin entre leurs mains. Une victoire avec le bonus et les coéquipiers de Maxime Lucu iront en barrage pour le demi-mêlée de l'UBB. Il faut aborder cette dernière rencontre comme un match de phase finale.
Il va falloir cravacher encore et se servir de ce qu'on a vu comme expérience il y a 2-3 semaines en phase finale de Coupe d'Europe pour aller chercher d'autres phases finales pour le club et surtout prendre ce match-là comme un 8e et aller chercher tout ce qu'il faut comme ingrédient pour passer ce match de plus.
L'UBB devra faire sans sa pépite, son ouvreur Mathieu Jalibert, blessé, mais qu'importe pour Maxime Lucu, le capitaine basque qu'en est persuadé, c'est devant que le match va se jouer.
L'image de tous les matchs de top 14 maintenant depuis 2 mois, où à chaque fois qu'on a répondu présent, on a fait des bonnes performances. Et à chaque fois qu'on a été un petit peu mis en doute, ça a donné des résultats un peu négatifs. Donc à nous de répondre présent.
En face, après la claque reçue à domicile face au Racing, les Clermontois peuvent encore se qualifier. Alors le coach Christophe Uriau attend une vraie révolte de la part de ses joueurs.
On a besoin de se retrouver entre nous. D'abord, ça passe par un lavage du cerveau individuellement, puis après certainement collectif, parce qu'on n'a pas envie que la saison s'arrête. Ça ne serait pas digne de notre saison, ça ne serait pas digne de nos joueurs et ce ne serait pas digne de nos supporters.
Et en plus de la victoire, les Clermontois devront aussi compter sur un faux pas du Racing 92 ou de La Rochelle pour espérer se qualifier.
Coup d'envoi des 7 matchs de la dernière journée en simultané à 21h.
Merci Hugo Marceau pour ce programme sportif complet et très alléchant.
C'était le journal de Corinne Audouin. Merci à tous les deux. Il est 8h17.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Céline Dacosta, coup de vent sur la Manche aujourd'hui.
Oui, sous la perturbation qui est arrivée hier et qui poursuit sa route entre la Bretagne et la Normandie en ce moment, avec des averses. Là, le vent souffle fort, jusqu'à 70-80 km à l'heure en rafale sur les côtes bretonnes, le Cotentin. Des rafales de vent assez fortes qui vont concerner toutes les côtes de la Manche aujourd'hui et donc toute la journée. Vent qui concernera également le Nord-Ouest jusqu'en Île-de-France cet après-midi. Et c'est là qu'on va retrouver les averses qui se seront décalés des Pyrénées vers le Massif central, le bassin parisien et les Ardennes, localement pour avoir quelques coups de tonnerre. Et puis à l'arrière, là où la perturbation sera déjà passée, les éclaircies reviendront. Pour les régions de l'Est et de la moitié Sud, c'est le soleil qui va briller généreusement, surtout près de la Méditerranée en Corse, et ça toute la journée.
Et c'est aussi là qu'il fera le plus chaud.
27 degrés à Nîmes, à Montélimar, à Marseille, 26 à Ajaccio. Ça grimpe à nouveau dans le Sud-Ouest, 25 à Toulouse, dans le Centre-Est aussi, 26 à Lyon. Le Nord-Est, 25 à Strasbourg, donc sous le soleil, mais ça reste juste pour les autres régions de la moitié Nord, 16 à 22 degrés. Des valeurs qui restent aussi un peu fraîches ce matin, avec 8 à 14, 15 à 19 près de la Méditerranée.
La météo de Céline Dacosta. Tout de suite, les mots d'Asco.
France Inter, le 6-9.
Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour.
Vous nous parlez d'un discours.
Un très mauvais discours, en tout cas dans la forme. Hein. Un bonhomme compassé, il scande ses mots, il est raide comme un piquet.
Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés.
Alors voilà, c'était le général de Gaulle le 2 juillet 1940, sans doute la première fois qu'il parlait devant une caméra. Alors la semaine dernière, sur le plateau de nos amis de C'est à vous, on a un peu ri de ce discours. Et puis, Simon Abkarian, qui joue le général dans le film La bataille de Gaulle, sorti mercredi, Simon Abkarian a eu ce mot.
Pour moi, c'est très inspirant, en tant qu'acteur, de m'inspirer de ça, c'est-à-dire le chemin qu'il a à parcourir pour qu'il puisse se faire entendre.
Et c'est donc de cela que nous parlons ce matin, le mystère de l'incarnation. Comment d'une faiblesse faire une force? Comment un grand acteur, Abkarian, incarne un autre acteur, le général de Gaulle?
Il a fallu que je propose un de Gaulle, parce qu'il est théâtral cet homme, et donc il fallait lui donner de la théâtralité sans que ce soit trop grandiloquent ou trop appuyé.
Et oui, c'est un travail.
Et donc le comédien invente son personnage.
Il l'imagine, il le recrée, il l'invente et il le défend. Il y a 17 ans, Simon Abkarian avait joué Manouchian, le héros de la résistance, dans le film L'armée du crime de Robert Guédiguian.
Moi personnellement, je me suis dit, il fallait que je reste derrière, quoi, pour le représenter au maximum, pour le faire apparaître et le faire parler par le voile de la pudeur qui est celle du jeu.
La pudeur du jeu, c'est beau, hein? Alors cette fois, pour sentir de Gaulle, Abkarian s'est frotté au langage du général.
Et chaque mot est un diamant. Même les compléments d'objets directs ou les adjectifs ou quoi que ce soit, il appuie dessus, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça, en fait.
Jamais vu ça. Parfois, l'incarnation naît d'une impression. Il y a 6 ans, c'est Lambert Wilson qui avait interprété le général dans un film De Gaulle qui racontait la métamorphose de mai-juin 40. Et c'est par l'intime, en comprenant le lien entre De Gaulle et son épouse Yvonne, que Wilson avait accepté le personnage.
Sur la copie du scénario, il y avait cette photographie, lui à 50 ans, elle à 40. Ils s'aiment, ça se voit, il y a une ironie, il y a une tendresse entre eux. Et puis je me suis dit, ah ok, ça c'est possible, cet homme-là, oui.
Et le comédien racontait ensuite, c'était avec Léa Salamé sur cette antenne, il racontait un enjeu du film avec Isabelle Carré qui jouait Yvonne de Gaulle.
On a inventé ce que pouvait être leur geste intime. C'est très particulier de se dire comment est-ce que le général de Gaulle embrasse Yvonne. Ça commence par une scène de lit en fait.
Et oui, il faut tout prendre pour bien incarner.
Et on est habité hein, quand on joue un personnage historique.
Souvent, hein. On a en tête Albert Dieudonné. Il avait joué Napoléon dans le film d'Abel Gance, un monument au temps du muet. Il s'était fait enterrer dans le costume de l'empereur, et de son vivant, il assumait tout.
Je me suis cru Napoléon, et surtout, quand les caméras tournaient, là vraiment, je me croyais Napoléon.
Alors Abkarian, lui, ne pense pas qu'il est de Gaulle, mais n'empêche, il a créé un rapport mystique avec le général. Il est même allé sur sa tombe.
Si vous voulez, j'avais besoin de m'inventer un rituel, parce que si, je pense que il fallait que je donne une dimension sacrée à ce travail-là.
Alors pour Lambert Wilson, le grand rôle de sa vie n'a pas été de Gaulle, mais l'abbé Pierre. Il l'avait joué très jeune et l'abbé l'avait aidé, il l'avait guidé dans son personnage, il avait, disait Wilson, changé sa vie, il était devenu un guide spirituel et un ami, il l'avait même baptisé.
L'abbé m'a effectivement baptisé parce que je voulais un rite de passage avec lui. C'était quelque chose qui était lié à notre histoire. Je pense qu'il aurait pu être prêtre dans une autre religion, je pense que j'aurais voulu aussi ce rite-là.
Alors forcément, quand sont venues les révélations sur l'abbé Pierre et ses prédations sexuelles, Lambert Wilson a été touché. Ce sont des questions qui arrivent quand on incarne. Est-ce qu'on incarne un homme ou bien l'idée qu'on s'en faisait?
Les mots d'Asco, merci Claude Askolovitch. À samedi prochain, à suivre le grand entretien avec Karine Durieux-Diebold et Arnaud Gallet.
Penny Lane, l'outil compta facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Mais attention, dès le 1er septembre 2026, fini les factures papier ou envoyées avec outils non homologués. Toutes les entreprises devront passer à la facture électronique. Heureusement, avec Penny Lane, vous êtes déjà prêts pour la réforme de la facturation électronique. Découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable, Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
France Inter, partenaire de la vie parisienne au Théâtre du Châtelet, servi par la troupe de la Comédie Française, mise en scène de Valérie Lessort. La vie parisienne est un opéra bouffe à la fois grave et léger. Grâce à cette nouvelle production, un regard sarcastique, pétillant et critique est posé sur le tout Paris du Second Empire. Avec l'Orchestre de Chambre de Paris, puis l'ensemble Les Frivolités Parisiennes, sous la direction musicale d'Alexandra Cravero. La vie parisienne au Théâtre du Châtelet, du 12 juin au 11 juillet, un spectacle France Inter.
Il est 8h23.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Et un grand entretien ce matin, alors que la disparition et donc le meurtre de Liana, 11 ans, a soulevé cette semaine la question de graves dysfonctionnements de la justice et de l'ensemble de la chaîne pénale dans la protection des mineurs. Questions, réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 ou l'application Radio France. Pour en parler ce matin, deux invités au micro d'Inter, Arnaud Gallet et Karine Durieux-Diebold. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants, ancien membre de la CIVISE, qui est, je le rappelle, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, auteur de « J'étais un enfant » chez Flammarion. Karine Durieux-Diebold, avocate spécialisée dans les droits des victimes de violences sexuelles, ancienne membre de cette même CIVISE. On rappelle les faits, c'était donc le 29 mai à Florence, dans le Gers, disparaissait la petite Liana, 11 ans. On apprenait hier soir que le corps retrouvé jeudi était bien le sien. Le principal suspect, Jérôme B., toujours présumé innocent, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Un drame qui soulève le problème de dysfonctionnement judiciaire, notamment au regard des antécédents de ce Jérôme B. On va s'y arrêter. Mais d'abord, Arnaud Gallet et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier, parlait d'un immense échec et il présentait ses excuses non seulement à la famille mais à l'ensemble des Français. Comment avez-vous reçu ces mots ?
Comment est-ce qu'on reçoit ces mots ? Déjà, on a une forte pensée, bien entendu, pour la famille, mais moi, je me dis, M. Darmanin, il est garde des Sceaux, il y a eu un rapport qui a été rendu par la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On a l'impression de découvrir les dysfonctionnements au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau de l'école, je me permets aussi de le dire, il y a quand même une commission d'enquête. Là, on a une...
Et on va en parler tout à l'heure.
Là, on a quand même une petite qui sort à 15h, qui est récupérée par un individu qui est pas... Enfin, bref, sans l'autorisation des parents, ça pose... Là aussi, il y a plein de trucs, en fait, on voit bien que tout le monde sort le parapluie pour se dire c'est un dysfonctionnement. Non, c'est pas un dysfonctionnement, c'est systémique, c'est-à-dire que c'est sans cesse la même histoire, c'est celle qu'on dénonçait au niveau de la CIVISE qui a été mise en place par Emmanuel Macron. C'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui ce dysfonctionnement systémique a coûté la vie, une fois de plus, d'un enfant, d'une enfant, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut dire.
Même question, comment avez-vous reçu les mots du ministre de la Justice, Maître ?
Mais écoutez, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. On parle d'un mécanisme, phénomène systémique. Les violences sexuelles sont mineures.
Expliquez-nous ce que c'est que systémique.
Alors, les violences
sexuelles... C'est systématique, c'est l'immense échec. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça ne veut pas dire systématique. Déjà, il faut rappeler les chiffres. C'est-à-dire que les violences sexuelles sur les mineurs sont systémiques. Ce sont des violences de masse. Nous avons 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles. Dans une classe de CM1 ou de CM2, cela représente 2 à 3 élèves par classe. Donc, on a des violences qui sont systémiques. Et ensuite, on a des dysfonctionnements qui sont systémiques parce que c'est récurrent. Moi, dans mon cabinet, malheureusement, c'est la triste habitude que j'ai de relancer les parquets, de relancer les enquêteurs parce que les enquêtes sont trop longues, parce qu'on ne centralise pas les informations, parce qu'on a des auditions d'enfants de 3 ou 4 ans qui dénoncent des faits et qui ne sont toujours pas entendus au terme de plusieurs mois. Et vous vous rendez compte, une parole d'enfant...
Donc des signalements, plaintes classées sans suite, c'est ce que vous appelez, même malgré une enquête ouverte.
Exactement. Et là, dans cette affaire, il y avait des signaux qui étaient au rouge. Au rouge, il y avait eu des plaintes précédentes. Et l'enquête... du mois d'août 2025
n'était pas encore classé.
Alors était en cours. Ça faisait 10 mois d'enquête. Monsieur n'avait toujours pas été encore entendu. Voilà.
On peut rappeler à nos auditeurs d'abord qu'en août 2025, donc il y a eu une nouvelle plainte contre cet homme pour viol répété sur une enfant de 10 ans. Une enquête ouverte et Jérôme B n'est jamais entendu pendant 10 mois.
Voilà, ça c'est intéressant. C'est intéressant, Arnaud Gallet. Et c'est là qu'on peut se poser la question non seulement d'un dysfonctionnement systémique ou non, mais d'une faute, parce que la procureure, le parquet en février 2026, suite à cette enquête ouverte en août 2025, demande que le suspect soit entendu en garde à vue. La gendarmerie ne le fait pas.
Bah oui, oui, c'est une faute, mais encore une fois, c'est une faute.
Donc c'est des fautes humaines aussi.
C'est des fautes humaines, mais c'est des fautes qui arrivent souvent en fait sur un système qui est à bout de souffle. En fait, c'est exactement ce qu'on dit. Vous savez, moi, je vais me permettre de prendre quand même un exemple et de vous dire que c'est un manque surtout de volonté politique. On va prendre un exemple tout simple.
Parce que là, on entend des politiques qui se renvoient tous la balle. Tout le monde dit dysfonctionnement.
Justement, c'est important. Regardez, on prend le terrorisme. Le terrorisme, on se dit, on est en guerre contre le terrorisme. Il y a des gens qui sont présumés innocents, parce qu'on fait toujours, on nous brandit la présomption d'innocence, donc on va le dire gentiment, qui sont pour autant.
C'est le cas, effectivement.
Qui sont pour autant fichés S, parce qu'on se dit, c'est un danger pour la population. Mais on n'est pas en guerre contre la pédocriminalité quand il y a 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, quand il y a 11% de la population française victime d'inceste. On n'est pas en guerre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un fichier, une surveillance de ces personnes-là? Je vais finir mon exemple quand même, c'est important. Vous voyez, hier, moi je me déplace, je suis quelqu'un qui, effectivement, dénonce ces dysfonctionnements systémiques. Je me déplace à Béziers. J'ai les renseignements territoriaux qui m'appellent pour me demander ce que je fais à Béziers. Donc, en l'occurrence, ils arrivent dans certains cas, parce que moi je représenterai éventuellement un danger, sait-on jamais, pour la nation. Enfin, quand même, sincèrement. On peut, au bout d'un moment. Moi, ce que j'aurais préféré entendre, par exemple, du garde des Sceaux, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, il l'a dit, il y a tant de plaintes aujourd'hui. Il faut rajouter des signalements. Et dans ce cas-là, qu'on fiche les personnes.
On ne comprend pas bien ce que vous dites là.
Comment ça?
Explique.